Bonjour à toutes et à tous, c'est Jamy. Bienvenue dans Par ici le futur, le podcast qui interroge l'avenir en Occitanie. Comment se nourrir demain? Quels moyens de transport seront utilisés par nos enfants et nos petits-enfants? Comment produirons-nous l'énergie nécessaire à notre quotidien? Ce sont les questions que nous posons à celles et ceux qui travaillent dès aujourd'hui au monde de demain. Ensemble, partons explorer ce territoire engagé dans des solutions d'avenir.
Par ici, le futur.
Le risque qu'amène le changement climatique, c'est une forme de fracture territoriale entre les territoires qui auront un accès à l'eau sécurisée et les territoires pour lesquels l'eau risque d'être intermittente, faire avec et non pas lutter contre.
Aujourd'hui, je vous propose, comme nouvelle étape de notre odyssée, l'eau. La région Occitanie compte 74 000 km de cours d'eau, 35 500 zones humides, des zones habituellement inondées ou gorgées d'eau qui abritent une biodiversité très riche. Et bien sûr, il y a la mer, la splendide Méditerranée qui borde les côtes de la région des Pyrénées au Rhône. Mais derrière cette impression d'abondance se cache une autre réalité, la sécheresse. Une sécheresse chronique qui sévit aussi parfois pendant l'hiver. En décembre 2023, les débits de l'Aber et de l'Orbieu, deux rivières du département de l'Aude, étaient à moins de 1% de leur normale à cette période. Face à cette sécheresse, le préfet de l'Aude a dû prendre des mesures de restriction d'eau en plein hiver. Cette nouvelle réalité appelle à des changements aussi bien dans nos habitudes que dans la gestion de l'eau. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment la région Occitanie prépare l'avenir. Nous parlerons de préservation de l'eau, de lutte contre le gaspillage, de réutilisation des eaux usées traitées, mais aussi des nouveaux conflits entre usagers, des défis passionnants dans lesquels je vous propose de plonger. L'Occitanie compte 6 millions d'habitants et 42 000 nouveaux arrivants chaque année. Elle est en plus très prisée des touristes. Lors de la saison estivale 2023, d'avril à septembre, les hébergements touristiques ont accueilli 13 millions de touristes. Face à des sécheresses qui se répètent 2019, 2022, 2023 et à une demande qui s'accroît, l'eau se raréfie. Un défi pour l'Occitanie qui a adopté en 2023 un nouveau plan régional de l'eau portant à 60 millions d'euros le budget annuel consacré à l'eau, soit 160 millions d'ici 2030. Parmi les priorités de la région, sensibiliser les citoyens, être exemplaire au niveau de la gestion, mieux partager la ressource en eau, innover. L'Occitanie a aussi l'ambition de devenir la première région française en matière de réutilisation de l'eau. Nous y reviendrons. Mais au fait, pourquoi les nappes phréatiques et les cours d'eau sont-ils à sec dans la région? Nous avons posé la question à Charlène Descollonges, ingénieure hydrologue.
Pourquoi les cours d'eau sont à sec dans cette région, l'Occitanie? On a un déficit de précipitations cumulé depuis 2 ans, des extrêmes qu'on n'a jamais enregistrés, et donc manque de pluie, et bien manque d'eau dans les sols. On parle de sécheresse agricole ou sécheresse édaphique. Ensuite, dans les cours d'eau, sécheresse hydrologique, et dans les nappes, les sécheresses hydrogéologiques. Dans l'Aude, par exemple, le fleuve qui parcourt le département de l'Aude, les débits sont quasi à plat depuis 3 ans.
Alors il y a la sécheresse, plus rude que partout ailleurs en France, et aussi un régime des pluies qui en Occitanie est totalement modifié et qui lui aussi pose problème.
Oui, c'est vraiment un hotspot du changement climatique. L'Occitanie, mais jusque dans les Alpes-Maritimes, hein, tout le pourtour méditerranéen va recevoir moins de pluie à l'échelle de l'année. Donc on est vraiment sur un processus de désertification de cette région. Il va y avoir beaucoup moins de pluie. Et en plus de ça, cette pluie, quand elle va tomber de manière très intense, sur une période très courte.
Le déficit annuel régional, c'est-à-dire la différence entre les ressources en eau et les besoins, est estimé à environ 200 millions de mètres cubes. Un déficit qui provoque des conflits d'usage, c'est-à-dire des désaccords entre usagers sur l'utilisation de l'eau. Un phénomène apparu ces dernières années. Jean-François Blanchet est le directeur général du groupe BRL, Société d'aménagement et d'exploitation d'installations hydrauliques en Occitanie, joint par téléphone. Il nous dresse un état des lieux de ces nouvelles tensions.
Disons, ce qu'on ressent très fortement depuis 2019, c'est une très forte tension au niveau des populations, au niveau des territoires. En clair, le risque qu'amène le changement climatique, c'est une forme de fracture territoriale entre les territoires qui auront un accès à l'eau sécurisée et les territoires pour lesquels l'eau risque d'être intermittente, c'est-à-dire présente certaines années et insuffisante d'autres années, y compris pour des besoins en eau potable. Et ça, c'est un grand risque parce que ça nous projette pratiquement 1 à 2 siècles en arrière, là où l'eau pouvait manquer pour certaines communes, et je parle d'eau potable, nécessaire pour la vie, au-delà de l'eau besoin pour l'agriculture. Donc, on a senti effectivement des pressions qui sont plus fortes, on a senti aussi des tensions entre les usages, des compétitions en quelque sorte sur l'accès à l'eau pour l'agriculture ou pour l'eau potable ou pour l'industrie. Et donc, il nous faut aujourd'hui, nous semble-t-il, amener davantage de sérénité dans le débat et on ne peut pas simplement agir dans un contexte de peur du changement climatique. Ce qui nous semble important aujourd'hui, c'est de travailler pour une vision d'une société qui soit plus équilibrée, qui ait la conscience de ses enjeux et qui bâtisse les solutions les plus durables dans un contexte réellement d'adaptation, c'est-à-dire faire avec et non pas lutter contre.
Revenir 1 à 2 siècles en arrière lorsque l'eau potable pouvait manquer à certaines communes, c'est le risque, nous dit Jean-François Blanchet. Pour éviter ce scénario, la communauté scientifique travaille depuis plusieurs années sur des solutions. Éric Serva, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du centre international IC Reward, à Montpellier, le premier centre UNESCO de recherche et de formation dédié à l'eau continentale en France, c'est-à-dire l'eau qui se trouve sur les terres émergées. On ne parle pas ici de l'eau qui se trouve dans la mer et dans les océans. Alors, IC Reward, c'est un acronyme, comme l'on dit. Qu'est-ce que ça signifie exactement ?
IC Reward, ça signifie International Center for Interdisciplinary Research on Water System Dynamics. Alors c'est de l'anglais, ça peut paraître un peu compliqué. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est essentiellement le fait que dans le cadre du centre, nous mettons en œuvre une recherche qui est une recherche pluri- et interdisciplinaire, ce qui permet de rassembler des compétences pour traiter tous les sujets complexes qui sont liés à l'eau.
Alors, il y a une trentaine de centres UNESCO qui sont dédiés à l'eau dans le monde. Celui que vous dirigez est le premier en France. Il est né en 2020. Le fait que l'UNESCO crée un centre de ce type en France, ça illustre parfaitement la réalité de l'eau sur notre territoire.
Alors oui, bien sûr, ça illustre parfaitement. Ça, je dirais ça vient au bon moment finalement. Parce que la création de ce centre n'est pas liée aux difficultés que nous rencontrons maintenant depuis quelques années. La démarche avait été engagée avant qu'on connaisse toute cette série de difficultés et de problèmes. Mais ce que l'UNESCO avait bien compris, c'est qu'à Montpellier, il y avait justement cette communauté scientifique pluri- et interdisciplinaire qui a développé une capacité à traiter les problèmes de l'eau sous tous les angles.
Alors c'est un groupe de travail pluridisciplinaire qui réunit des géologues, des hydrologues, des économistes, mais on y trouve aussi des anthropologues. Pourquoi des anthropologues ?
Parce que les anthropologues vont nous apporter un éclairage sur la manière dont les sociétés humaines, ailleurs dans le monde finalement, et même aussi chez nous, mais beaucoup ailleurs dans le monde, comment ces sociétés humaines se sont construites par rapport à l'eau. Parce que l'eau est un facteur qui est décisif dans l'implantation d'une société, dans son organisation, dans la manière dont elle vit au quotidien, la place des uns, des autres, la place des femmes en particulier dans beaucoup de pays, la manière, le rapport parfois presque lié à de la mythologie. Donc l'anthropologie va nous permettre de comprendre, d'analyser et de comprendre comment, par rapport à des situations précises, les sociétés humaines se sont construites et organisées, et à partir de là, nous donner de l'information qui va venir compléter la réflexion que peuvent mener les autres disciplines que vous avez évoquées.
Tout cela pour dire que finalement, l'élaboration de solutions dépend aussi de savoirs qui viennent d'ailleurs.
Effectivement, ça contribue. Je pense que, et de toute façon, je dirais que c'est le propre d'un scientifique, c'est-à-dire d'aller chercher l'information où elle est, de l'intégrer dans sa propre réflexion pour améliorer la connaissance de ce qu'il étudie. Et donc, à partir du moment où on peut avoir des exemples qui viennent d'ailleurs de situations qui existent, par exemple, il y a aujourd'hui des sociétés humaines qui se sont construites dans des contextes de sécheresse chronique. Et donc, de voir comment ces sociétés réagissent, ça peut nous donner effectivement des éléments d'information, de compréhension. Et donc, ça apporte une pierre supplémentaire aux solutions que nous avons besoin nous-mêmes d'imaginer pour nos propres sociétés.
Voilà. On ferme le robinet de la cuisine et de la salle de bain, mais pas celui de la connaissance.
Absolument.
Combien de personnes travaillent à IC Reward ?
Aujourd'hui, 470 à 480 scientifiques répartis dans 17 laboratoires, soutenus par 13 universités, écoles d'ingénieurs et organismes de recherche. Et nous avons en plus, pour nous aider, parce que c'est essentiel, à peu de choses près 180 doctorants qui sont soit dans nos laboratoires à Montpellier, soit dans les laboratoires des institutions partenaires, par exemple des universités africaines ou méditerranéennes avec lesquelles nous travaillons.
Pour être un peu plus concret, quels sont les principaux axes de recherche ?
En fait, ce qui se passe à Montpellier, c'est que nous sommes capables de finalement de traiter l'ensemble des sujets qui font aujourd'hui la complexité de toutes ces problématiques liées à l'eau. Et donc, nous avons des équipes qui vont travailler depuis ce qui relève de la mobilisation de la ressource jusqu'à son traitement, en passant par différents types d'approches. Et l'intérêt aussi, c'est que nous sommes capables finalement de traiter donc de l'accès à la ressource, de la contamination de la ressource, du traitement de l'eau, mais également de traiter des problématiques qui sont des problématiques finalement liées aux risques hydrologiques, les événements extrêmes, les sécheresses qui sont d'actualité, et puis aussi notre capacité finalement à aborder ces aspects-là sous un angle qui n'est pas uniquement l'angle des sciences dites dures, mais sous l'angle des sciences humaines et des sciences sociales, et donc d'aborder les questions liées à l'eau sous l'angle de l'économie, de la sociologie, des politiques publiques, et finalement être capable d'avoir toutes ces approches, c'est ce qui fait la capacité aujourd'hui à traiter les questions de l'eau sous un angle qui n'est pas uniquement lié à un point de vue, mais bien dans toutes leurs dimensions, et c'est le plus important.
La région rassemble de nombreux monuments gallo-romains, dont un connu dans le monde entier, le pont du Yard, un magnifique ouvrage témoignant du génie des architectes et des hydrauliciens de l'époque. Ce pont supporte entre autres un aqueduc qui permettait d'acheminer l'eau jusqu'à Nîmes, qui se trouve à 20 km de l'aqueduc. Et au total, cet aqueduc s'étire sur près de 50 km. Finalement, les problèmes d'eau, ce n'est pas récent dans la région.
Ah non, ce n'est pas récent. Il y a le pont du Gard. Un peu moins loin dans le temps que le pont du Gard, on peut se rappeler de ce que racontait Manon des Sources, par exemple. Donc non, effectivement, sur l'arc méditerranéen, en tout cas, cette question de l'eau est une question qui est une question ancienne, qui depuis toujours se pose compte tenu du climat méditerranéen.
Aujourd'hui, l'eau qui arrive à Nîmes ne passe plus par l'aqueduc, elle emprunte le réseau hydraulique régional, un autre grand ouvrage. Le réseau hydraulique régional est un élément clé du service public régional de l'eau créé en 2011. Précision importante, ce réseau ne couvre pas toute l'Occitanie. Il s'étend sur 250 communes de l'Aude, du Gard et de l'Hérault et sécurise toute l'alimentation en eau potable de villes comme Nîmes ou Montpellier. Ce n'est pas tout. Le réseau hydraulique régional dessert une grande partie des surfaces irriguées de la façade méditerranéenne. Il est donc primordial pour l'agriculture. Il utilise pour l'essentiel de l'eau issue du Rhône ou de réservoirs de stockage. Propriété de la région Occitanie, ce réseau est géré par la société BRL, qui l'a conçu et réalisé il y a plus de 65 ans. BRL, trois lettres qui nous rappellent la mission d'origine de cette entreprise, l'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc, BRL. Un prolongement de ce réseau sur 150 km est en cours de finalisation. C'est le programme Aqua Domitia, voulu par la région Occitanie, qui sécurise l'alimentation en eau d'une centaine de communes supplémentaires, de Montpellier jusqu'à l'Aude. La réalisation de ce programme a été confiée, là encore, au groupe BRL. Je vous le disais en introduction de ce podcast, l'Occitanie compte 42 000 nouveaux arrivants chaque année, plus de 6 millions d'habitants en tout. Subvenir aux besoins d'une population de plus en plus nombreuse dans un contexte de raréfaction de la ressource, tout en préservant les besoins du milieu naturel, comment résoudre cette équation? Nous avons posé la question à Jean-François Blanchet, le directeur général du groupe BRL.
Alors effectivement, c'est une équation qui est complexe, comme vous venez de la poser, parce que le changement climatique, il pèse sur les deux côtés de la balance. À la fois, il rend l'eau moins disponible, puisque avec moins de précipitations, les cours d'eau en été disposent de moins d'eau, et les nappes de la même façon, on l'a vu en 2019, 2022, 2023, et la promesse climatique fait que ça sera sans doute encore pire les années suivantes. Et puis d'un autre côté, les besoins en eau ont tendance à augmenter, notamment au niveau de l'agriculture. Donc ça veut dire d'une part pouvoir mobiliser peut-être plus fortement les ressources abondantes, comme celle du fleuve Rhône, qui amène à la mer chaque année 54 milliards de mètres cubes d'eau. Et aujourd'hui, les prélèvements en eau sur l'ensemble du bassin versant du Rhône sont de l'ordre de 5% de l'ensemble du volume déversé en mer. Donc, il reste encore des capacités d'exploitation, même si le Rhône est aussi soumis au changement climatique. Et puis, en même temps, c'est de développer des usages beaucoup plus économes et pour tous les usagers, c'est-à-dire aussi bien les usagers industriels, les usagers particuliers au niveau des maisons, au niveau des appartements, et également l'agriculture qui aujourd'hui est très sensibilisée sur les besoins en eau des cultures. Alors effectivement, l'équation est compliquée parce que elle nous amène à changer nos comportements. Et on sait que c'est très difficile de changer de comportement. La vraie question, c'est allons-nous changer aussi rapidement que le changement climatique n'apporte d'impact aujourd'hui en termes de précipitations et en termes d'écoulement en eau.
Alors, comme tous les citoyens et les industriels, les agriculteurs sont appelés à être plus économes. On pense au goutte-à-goutte, évidemment, pour irriguer les cultures. Mais il n'y a pas que ça. Jean-François Blanchet nous donne un aperçu des nouvelles méthodes d'irrigation et aussi leur philosophie.
Excite les grands canons qui apportaient de l'eau de manière massive, comme on pouvait le voir dans les années 60 ou 70. Aujourd'hui, l'eau est amenée et comptabilisée au niveau de compteur pour être la plus économe possible avec la plus faible quantité d'eau possible pour satisfaire les besoins en eau des plantes. Et on développe également avec les chambres d'agriculture, avec les professionnels agricoles, des techniques d'irrigation plus économes avec des avertissements à l'irrigation apportés sur des smartphones, par exemple, pour apporter les bons dosages sans eau excédentaire. Donc, c'est un modèle qui associe, si je puis dire, de la performance à la fois du côté du gestionnaire, à la fois du côté du monde agricole. Et ça, c'est important que tout le monde soit solidarisé dans les économies d'eau. C'est un objectif global, c'est un objectif collectif.
Pour conjuguer économie d'eau et irrigation, il existe une autre solution, utiliser les eaux usées. En France, nous n'en sommes qu'au balbutiement et la région Occitanie veut prendre la tête du mouvement. La réutilisation des eaux usées traitées, REUT, comme on dit dans le jargon, c'est le réemploi des eaux issues de stations d'épuration domestiques et industrielles. Il s'agit des eaux provenant des toilettes, de la cuisine, de la salle de bain qui, après avoir été traitées dans des stations d'épuration, sont habituellement rejetées dans le milieu naturel, dans des cours d'eau par exemple. Dans ce domaine, la France n'est pas très bonne. Nous réutilisons moins de 1% du volume des eaux usées traitées. Quand l'Italie en réutilise 8%, l'Espagne 15%, Israël 90%. L'Occitanie s'est donc engagée dans cette voie alternative avec un objectif, 10 millions de mètres cubes d'eau réutilisée d'ici 2030. Elle soutient des projets comme celui qui est en cours sur la commune de Roquefort-des-Corbières dans le département de l'Aude. Les eaux usées sont réutilisées pour irriguer la vigne. Jean-François Blanchet nous y emmène.
Donc l'idée est venue d'une rencontre avec les viticulteurs au niveau local qui ont exprimé des besoins en eau tout simplement parce qu'il n'y avait pas de ressources alternatives. Pas de possibilité de forage, pas de possibilité de se raccorder à un réseau. Donc la seule possibilité pour amener de l'eau à la vigne consistait à réutiliser les eaux après traitement de la station d'épuration. Et c'est ainsi que nous avons constitué, avec la collectivité publique du Grand Narbonne, avec une association locale qui a rassemblé tous les agriculteurs, avec un financement qui a été apporté par l'Agence de l'eau et par le Grand Narbonne, On a financé et réalisé la mise en place d'un stockage d'eau de 3000 m3 pour stocker les eaux qui sont traitées au niveau de la station d'épuration et ensuite un système de pompage avec de la filtration, de la désinfection également de l'eau pour la rendre apte à l'irrigation sur 15 hectares donc à Roquefort des Corbières. Donc c'était un grand défi. Parce que expliquer à des viticulteurs qu'ils vont réutiliser l'eau de la station d'épuration, ça n'est pas évident non plus en termes d'acceptation, mais ils ont compris les enjeux, ils ont mis en place les démarches nécessaires pour l'acceptation de cette solution technique. Et les viticulteurs, au niveau local, en redemandent, si je puis dire, et souhaiteraient en fait développer et amener à l'irrigation 5 hectares supplémentaires.
On remercie Jean-François Blanchet pour toutes ces explications très précises. Éric Servat, à côté des projets comme celui que l'on vient de découvrir à Roquefort des Corbières, la région Occitanie soutient la recherche dans le domaine de l'eau au travers de ce que l'on appelle des Living Labs, qui réunissent des chercheurs et des acteurs du territoire. Living Lab, encore un anglicisme, qui trompe d'ailleurs avec les accents légendaires de la région. En français, on parle de laboratoires vivants, mais ce ne sont pas vraiment des labos. On devrait plutôt parler de territoires d'expérimentation. Comment est-ce que ça fonctionne ?
Alors, juste avant de vous expliquer comment ça fonctionne, je voudrais signaler que ces Living Labs, en fait, sont inclus dans un projet plus global qui est financé par la région et qui s'appelle le Défi Clé Water Occitanie. Là aussi, un peu d'anglais.
Oui, mais on a compris. Water Occitanie,
voilà.
C'est accessible.
Voilà. En fait, un Living Lab, c'est un démonstrateur en vraie grandeur. Et l'avantage d'un Living Lab, c'est que ça va rassembler à la fois les scientifiques, mais aussi tous les acteurs du domaine de l'eau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre autour de la table des scientifiques, mais aussi des élus, des entreprises, des agriculteurs, éventuellement, si nécessaire aussi, des associations environnementales. Et on va faire en sorte que tous ces gens travaillent, réfléchissent ensemble pour imaginer quelque chose en vraie grandeur. Et c'est ça tout l'intérêt, c'est-à-dire que ce n'est pas une manip qu'on va monter dans un laboratoire, ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre sur un ordinateur avec juste une simulation, on va vraiment s'impliquer dans quelque chose en vraie grandeur. C'est tout l'intérêt du Living Lab, c'est d'être un vrai démonstrateur.
Mmh. Oui, dans Living Lab, il y a Living, voilà. Ça se passe dans la vraie vie, ça se passe sur le terrain. Un exemple concret pour que l'on comprenne bien comment ça fonctionne.
Par exemple, il y a dans le défi clé Water Occitanie, il y a 6 Living Labs qui sont installés, qui en sont à des phases différentes puisque les projets démarrent. Mais il y a par exemple le Living Lab de la communauté de communes de Clermont, du Clermontais, donc autour de Clermont-l'Hérault, qui est à quelques dizaines de kilomètres de Montpellier. Et là, précisément, l'idée, c'était de regarder comment est-ce qu'on pouvait, notamment, spécifiquement, dans cet exemple précis, s'intéresser à, non pas être directement sur de la réute, mais sur ce qu'on a plutôt appelé du réusage.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire que, finalement, la réute n'est qu'une forme de réusage. Parce que la réute, c'est spécifiquement en sortie de station de traitement des eaux. Mmh. Mais il peut y avoir d'autres endroits où on va, par exemple, drainer. Des eaux vont pouvoir être drainées et on va chercher à réutiliser ce type d'eau également. Et donc là, en l'occurrence, il y a précisément un projet qui est autour de ce réusage, avec un drainage des eaux agricoles, et l'idée de les décontaminer en les faisant passer sur des biochars, de manière à pouvoir ensuite les réutiliser en aval, après qu'elles auront été décontaminées.
Les biochars sont des charbons qui permettent...
Les biochars sont des charbons actifs qui vont permettre effectivement d'enlever les métaux lourds et un certain nombre d'autres polluants chimiques qu'on pourrait trouver dans l'eau, d'usage, dans les eaux, pardon, de drainage agricole, qui ont donc des eaux qui ont des résidus de pesticides, etc. Donc ça, c'est un type de projet. Et puis, il y a aussi un autre projet qui se met en place qui est précisément... Il y a un comité de pilotage sur ce Living Lab qui est paritaire entre les scientifiques et les acteurs de l'eau. Et là, précisément, il y a un travail de réflexion préalable pour identifier quels pourraient être les projets qui pourraient bénéficier de réutes. Donc il va falloir faire des arbitrages entre de l'irrigation, peut-être du soutien de cours d'eau, une réutilisation dans un contexte industriel. Voilà. Mais ça nécessite que tout le monde se mette autour de la table, travaille ensemble et que du coup chacun entende les besoins des autres pour qu'à un moment donné, on puisse faire des arbitrages et que ces arbitrages, une fois faits, il puisse y avoir en face la mise en place de solutions techniques ou technologiques. C'est le principe du Living Lab.
Alors, réutiliser des eaux usées traitées, c'est un vrai changement. Aujourd'hui, un Français utilise en moyenne 148 litres d'eau potable par jour pour se laver, faire la vaisselle, laver le linge, les sols. En fait, sur tout ce volume, nous n'en buvons qu'un litre et demi. Or, toute cette eau est potable à la base, y compris l'eau des toilettes et l'eau que l'on utilise pour arroser les plantes, le jardin et même les espaces verts, de l'eau qui a été traitée et qui a nécessité de l'énergie, un coût, etc. Franchement, j'aime bien mes carottes, mais c'est quand même dommage. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement ?
Ah, on peut évidemment faire autrement et précisément, une partie de ces usages doit s'organiser autrement. On peut imaginer qu'effectivement, les arrosages de jardins ne se fassent pas avec de l'eau potable. On pourrait imaginer des circuits internes dans les domiciles des gens, de manière à ce que, par exemple, ce soit l'eau des douches qui vienne alimenter les toilettes, par exemple. Donc, il y a toute une réflexion à mener pour réorganiser notre regard par rapport aux usages que nous avons d'une ressource qui, pour l'instant, est unique. Quoi que nous fassions, c'est une ressource qui est de l'eau potable. Elle a été traitée, acheminée dans les réseaux d'adduction d'eau potable. Et finalement, que ce soit pour aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, nettoyer la voirie ou remplir votre verre d'eau chez vous, c'est la même qualité d'eau. Et donc ça, ça n'est plus possible. Il va falloir faire différents arbitrages là aussi et mettre en place différentes réglementations en fonction de l'usage qu'on voudra.
Précisons que la réutilisation ne peut se décider qu'au cas par cas. Quand les eaux usées qui sortent des stations d'épuration viennent recharger les cours d'eau, par exemple, on ne peut pas les employer pour d'autres usages au risque d'avoir des cours d'eau à sec. En revanche, quand ces eaux sont rejetées en mer, eh bien là, il n'y a pas de problème. Alors, les projets expérimentaux sont nombreux en Occitanie, dans le domaine de la gestion de l'eau. Je vous emmène maintenant en Haute-Garonne, touchée l'hiver 2022-2023, par une situation inédite, une sécheresse hivernale. 32 jours consécutifs sans pluie. Résultat, à l'été 2023, la Garonne avait atteint un niveau historiquement bas. Une situation qui risque de se répéter. Alors comment répondre à la demande en eau des usagers tout en préservant les milieux aquatiques naturels ? L'une des solutions expérimentées est le soutien d'étiage. Charlène Descollonges nous explique de quoi il s'agit.
L'étiage, c'est les périodes de basses eaux dans les rivières, donc essentiellement autour de l'été, c'est la période estivale. Donc les étiages, en hydrologie, on dit qu'ils sont de plus en plus forts, plus en plus marqués, parce que les débits sont de plus en plus bas, et pendant longtemps. Les soutiens à l'étiage, c'est le fait de donner de l'eau en été aux rivières, pour qu'elles puissent continuer à couler.
Retournons près de Garonne, comme on dit du côté d'Agen, la patrie de Michel Serres, qui parle de ce fleuve comme s'il s'agissait d'une personne. Une opération expérimentale appelée Air Garonne vise à soutenir l'étiage de la Garonne, autrement dit soutenir le fleuve durant la période estivale. Comment ? Par une recharge artificielle des nappes afin d'augmenter les volumes d'eau souterraine qui alimentent le fleuve pendant la période sèche. Là encore, cette opération demande quelques explications.
On a deux techniques pour le faire. La technique, donc c'est une recharge qu'on dit active, avec de l'énergie, qui nécessite donc de l'énergie et qui va mobiliser de l'eau en surface ailleurs. Ou sinon, il y a la recharge passive. Et là, c'est de la recharge qui ne nécessite pas d'énergie. En fait, on va chercher à ralentir l'eau de pluie et l'aider à s'infiltrer pour qu'elle recharge naturellement en fait, les nappes.
Le projet Air Garonne est une recharge active. Pour faire simple, à l'hiver et au printemps, lorsque la Garonne est au plus haut, une partie de ses eaux sont orientées vers des zones d'infiltration pour aider la nappe à se recharger et faire en sorte qu'à la fin du printemps, elle ait fait le plein. De cette manière, la nappe phréatique peut alimenter la Garonne et soutenir son étiage pendant l'été. Cette expérimentation, grandeur nature, est soutenue par la région Occitanie, le département de la Haute-Garonne ou encore l'agence de l'eau Adour-Garonne. Si elle est concluante, elle pourrait être pérennisée et répliquée en amont du fleuve. Vous l'avez compris, l'Occitanie prépare l'avenir en misant sur la recherche et l'innovation. Mais on ne peut pas préparer le monde de demain sans les citoyens. Une préparation qui repose sur la sensibilisation à toutes ces questions, donc la transmission de savoir. Tous concernés, tous mobilisés. C'est le mot d'ordre du plan eau de la région Occitanie qui entend mobiliser l'ensemble des habitants et aussi sensibiliser les touristes aux bonnes pratiques. Dans un petit livre intitulé « Fake or not », Charlène Descollonges nous plonge dans l'eau douce. Elle nous parle aussi bien des rivières que des égouts, des sécheresses, des inondations ou encore de notre empreinte eau, c'est-à-dire l'eau dont nous avons besoin pour produire ce que nous consommons. Pour elle, il y a un manque d'éducation à l'eau.
Alors déjà, dans les programmes scolaires, en fait, on apprend très peu de choses hein, sur l'eau, d'où vient notre eau, qu'est-ce qu'on apprend en primaire et après, on n'en parle plus. Après, c'est quelque chose d'acquis. Même au lycée ou dans le cycle supérieur, on ne sait pas d'où vient notre eau, qu'est-ce qu'on en fait, l'impact du changement climatique, etc. Donc, moi, mon rôle, c'est de vulgariser tous ces concepts et de faire l'éducation. Et donc, il y a certaines associations qui le font, qui interviennent en plus des programmes scolaires à l'école pour parler de nos usages de l'eau, de l'empreinte eau, du changement climatique, des sols, des arbres, de la biodiversité, tout ça. Donc, ça, c'est super, mais il faudrait vraiment l'inscrire, l'ancrer dans les programmes scolaires.
Éric Servin, comment vous expliquez cette ignorance que nous avons à propos d'un sujet pourtant vital, qui est celui de l'eau ?
Vous savez, quand finalement tout se passe bien, on ne s'interroge pas. Et depuis fort longtemps maintenant, la question de l'eau est une question pour laquelle nous, en tout cas en France, nous n'avions pas la moindre interrogation. Tous les matins, on tourne un robinet, il y a de l'eau. Et en plus, en général, elle est quand même de qualité, donc on n'a pas vraiment de problème. Donc, je crois qu'on avait perdu ce lien à l'eau. L'eau était devenue tout à fait invisible dans notre organisation, dans notre société, dans notre quotidien. Elle est invisible parce qu'elle est partout. Et finalement, quand on est partout, on est vraiment nulle part. Et je crois qu'à l'arrivée, on a perdu cette connexion, ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies, finalement, où les gens faisaient attention. L'accès à l'eau était beaucoup plus difficile. L'eau n'était pas toujours de bonne qualité. Donc, il y avait un rapport à l'eau qui était différent. Et puis, on le voit ailleurs dans le monde. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. Et quand on regarde, par exemple, ce que représente l'eau dans les pays sahéliens, la dernière goutte de pluie tombe en septembre. La prochaine est au mois de juin. Je peux vous garantir que quand les premières pluies arrivent en juin, on y fait attention. On sait que l'agriculture va pouvoir redémarrer. Et puis on sait que c'est aussi la vie qui redémarre. Et donc, on a perdu ce lien et il faut le reconstruire.
Mais j'ai l'impression aussi que même l'ONU ne semblait plus très préoccupée par cette question de l'eau. En 2023, les Nations Unies ont organisé une conférence sur l'eau. Il n'y en avait pas eu depuis 1977.
Oui, c'est absolument invraisemblable. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est tout à fait invraisemblable que sur deux générations, il n'y ait pas eu une conférence thématique sur l'eau organisée par les Nations Unies. Alors, c'est quand même rassurant de voir que donc 46 ans après la conférence de Mar del Plata en 77, à New York, enfin en mars 2023, il y a eu une mobilisation. Et je pense que c'est important parce qu'on critique souvent les Nations Unies sur le manque d'efficacité que ça peut avoir. Mais à un moment donné, c'est une façon d'envoyer un signal. C'est une forme de mobilisation d'une gouvernance mondiale. En dépit de tout, ça reste un signal très fort qui est envoyé. L'eau souffre sans doute de ne pas avoir de COP, comme il y a une COP climat, une COP biodiversité. Là, je pense que les choses vont avancer. On a devant nous un agenda, puisqu'on sait qu'il y a une prochaine conférence qui se tiendra en 2026, puis une autre en 2028. Et on attend, c'est un des résultats de la conférence de l'année dernière, on attend la nomination d'un envoyé spécial des Nations Unies pour l'eau, ce qui devrait permettre quand même à la fois d'incarner les choses et puis d'en faire prendre conscience.
En parlant d'agenda, le 22 mars, c'est la Journée internationale de l'eau. C'est une bonne occasion d'informer les citoyens. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu votre fête au centre UNESCO Icy Reward ?
Alors, on pourrait effectivement voir les choses comme ça. En tout cas, c'est un événement pour lequel nous essayons de nous mobiliser à différents niveaux. Et on essaye effectivement de porter des événements à ce moment-là pour s'assurer de ce que cette journée mondiale de l'eau soit pas juste une journée de plus dans un calendrier, mais bien quelque chose et un moment surtout pendant lequel on va mettre l'eau sur le devant de la scène.
Oui, on ne fait pas que trinquer à l'eau, bien sûr.
On ne fait pas que trinquer.
Voilà, l'objectif justement, c'est de renforcer, retrouver ce rapport que l'on doit avoir à l'eau, ne pas penser que finalement, même si c'est un peu vrai, l'eau ne tombe pas du ciel. Enfin, celle qui arrive dans notre robinet. Le centre UNESCO IC Reward organise régulièrement des hackathons étudiants, les fameux W4F de l'anglais, Water for Future, de l'eau pour l'avenir. Un hackathon, Eric, c'est une compétition d'innovation. Mais d'où viennent les compétiteurs ?
Alors, les compétiteurs, aujourd'hui, viennent du monde entier. Nous réunissons donc maintenant régulièrement, chaque mois de février, plus de 450 étudiants qui viennent d'une vingtaine de pays, depuis l'Asie, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et c'est une compétition. Ce sont plus de 70 équipes d'étudiants qui représentent leurs universités, leurs écoles d'ingénieurs, qui vont s'affronter pacifiquement, mais qui vont s'affronter dans une compétition pour, sur un thème donné, essayer d'apporter la meilleure réponse, la meilleure solution, qui peut être une solution technologique, qui peut être une application sur un smartphone, qui peut être une approche plutôt orientée vers quelque chose d'associatif, de participatif. Il y a un jury international qui les fait plancher, pitcher, et puis qui, à un moment donné, se prononce et donne qui est le grand gagnant de cet hackathon, qui a pris en quelques années des dimensions absolument considérables et qui a un élément que je trouve absolument essentiel dans ce qu'est un hackathon, c'est une dimension de partage. Parce qu'en fait, vous avez des étudiants du monde entier, en l'occurrence, qui vont être confrontés à une problématique qui est universelle, qui est celle de l'eau, mais qui vont être confrontés dans ces conditions-là, dans des contextes qui sont complètement différents. Entre un étudiant montpelliérain, un étudiant du Sénégal, un étudiant en Inde, la manière dont la problématique va être abordée est aussi évidemment liée à un contexte climatique, économique, culturel, social, qui est propre à l'endroit où vivent ces étudiants. Il y a un moment de partage qui est extraordinaire parce que dans le cursus de l'hackathon, à un moment donné, à peu près à la mi-temps, ils vont tous plancher devant les autres. Et chacun, à ce moment-là, prend conscience de la réalité des uns et des autres.
Ça dure combien de temps, un hackathon ?
Ça dure deux journées pleines. Deux journées pleines.
Et les sujets sont découverts à quel moment ?
Alors, on leur donne la thématique, parce qu'il y a une thématique unique pour tous ces étudiants. La thématique est dévoilée 48 heures avant, pour qu'ils n'anticipent pas.
Oui, normal. Alors, en 2023, sur la première marche du podium, il y avait une équipe de l'école d'ingénieurs Polytech Montpellier, les vétérans, hein, et c'est pas parce qu'ils sont de Montpellier qu'ils ont gagné. Hein.
Absolument, parce que depuis qu'on organise les hackathons en 2018, c'est la première fois qu'une équipe montpelliéraine l'a emporté.
Voilà, pour montrer que les résultats sont parfaitement objectifs. L'équipe des vétérans a mis en place un projet baptisé Eli-O. Leur idée, à l'échelle d'un bâtiment, utiliser l'énergie hydraulique pour pallier l'intermittence de l'énergie solaire. Evalie Goudard, membre de cette équipe des vétérans, nous explique comment fonctionne leur innovation.
Avec mon équipe, on a imaginé un bâtiment avec des panneaux photovoltaïques sur le toit et en sous-sol, deux grands réservoirs superposés qui peuvent contenir de l'eau. Donc en fait, la journée, on a de l'électricité grâce à l'énergie solaire. Et une partie de cette énergie, elle est utilisée pour faire passer l'eau du réservoir inférieur vers le réservoir supérieur. Alors la nuit, on a toujours besoin d'électricité pour faire fonctionner le frigo, par exemple. Et du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on renvoie l'eau du bassin supérieur vers le bassin inférieur en la faisant passer par une turbine, ce qui produit de l'électricité.
Autre innovation récompensée lors des hackathons de 2023, le projet Obribus, fraîcheur de ville. Les Obribus sont des abribus végétalisés. Les végétaux sont arrosés grâce à l'eau de pluie qui est ensuite récupérée et utilisée pour des toilettes intégrées à l'Obribus. L'urine est également filtrée et utilisée comme biostimulant pour les végétaux. Eric, qui a pondu ce projet ?
Alors, ce projet-là, ce sont les étudiants de l'INSA à Toulouse.
Ok. Alors, Montpellier, Toulouse.
Et puis ensuite, on avait, troisième ex aequo, la Faculté des sciences de Tanger et l'Université de Grahamstown en Afrique du Sud. Voilà, ne jamais oublier qu'on est vraiment dans une compétition internationale.
Voilà, et que ce ne sont pas nécessairement des établissements français que l'on retrouve sur le podium.
C'est même le cas de manière assez rare.
Très bien. Alors, si vous êtes candidat, eh bien, rendez-vous chaque année en février pour les hackathons. Eric Servat, directeur du centre IC Reward, centre international de recherche interdisciplinaire sur la dynamique des systèmes aquatiques à Montpellier. Merci d'être venu vous exprimer à ce micro et répondre à mes questions.
Merci à vous.
Résumons le moment que nous venons de passer ensemble. Le changement climatique n'est plus seulement une menace. En Occitanie, ses conséquences sont très concrètes, avec un déficit annuel régional en eau, c'est-à-dire une différence entre les ressources en eau et les besoins estimés à environ 200 millions de mètres cubes. Les sécheresses à répétition, la raréfaction de la ressource en eau et les conflits d'usage qui en découlent demandent une adaptation rapide de tous les acteurs, mais aussi une prise de conscience des citoyens. Sur toutes ces questions, la région Occitanie prépare l'avenir avec un plan régional pour l'eau de grande ampleur. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode de Par ici le futur. Il sera consacré au transport.
Ce podcast vous est proposé par la région Occitanie.